Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get out.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, pour notre première émission en studio, on parle des Feuilles mortes avec vos critiques Lucie, Nathan et Léopold. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue donc pour ce nouvel épisode du Comptoir du Cinéma qui prend petit à petit forme. Et à ce propos, avant de commencer, je voulais remercier vivement les auditeurs et les auditrices qui nous ont fait de nombreux retours positifs pour la critique d'Anatomie d'une chute. C'est vraiment important et encourageant pour nous et on va tâcher de continuer comme ça. Puis d'ailleurs, voilà, sans plus attendre, penchons-nous sur Les Feuilles mortes, présent à Cannes en mai, comme Anatomie d'une chute et comme lui également, récipiendaire d'un prix et non des moindres, le prix du jury. Film court, 81 minutes, Les Feuilles mortes signe le retour au cinéma d'un réalisateur qui avait pourtant annoncé prendre sa retraite après son dernier film, De l'autre côté de l'espoir, en 2017, Aki Kaurismäki. Le réalisateur finlandais retrouve dans Les Feuilles mortes les thèmes de ses films des années 90 sur la classe ouvrière de son pays. Et je lis partout que ce film complète sa trilogie du prolétariat des années 90, mais je vous avouerai ne pas l'avoir vu. Donc je le dis, comme ça ce sera fait. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas vu pas plus qu'aucun film de Kaurismäki, d'ailleurs, ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier vivement Les Feuilles mortes, que je résumerai comme une histoire simple, presque un conte en fait, de la rencontre inopinée entre deux personnages. Anza, qui est joué par Alma Poisti, et Holapa, qui est joué par Jussi Vatanen, donc ils se rencontrent dans un bar un soir de karaoké et peu de temps après ils se recroisent. Un amour compliqué naît au milieu de leur galère quotidienne. Pour eux deux, un travail payé une misère et aucune stabilité professionnelle à l'horizon. Pour elle, des factures à régler et un porte-monnaie vide. Pour lui, une dépendance dramatique à l'alcool. Le tout, sur un fond d'immense solitude et de guerre en Ukraine, sans cesse rappelé par les informations à la radio. Arrière-plan angoissant qui semble définitivement clore tout échappatoire et tout espoir. Et pourtant, en dépit de ce résumé, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu cette année, à titre personnel en tout cas. C'est touchant, émouvant, poétique, même si j'aime pas du tout employer ce mot pour parler de cinéma, c'est poétique et d'une simplicité vraie. Bref, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, on va commencer par Baba Léopold à côté de moi.
Oui, moi j'avais jamais vu de film non plus d'Aki Kaurismäki, hein, c'est ça le nom du réalisateur. J'ai trouvé que c'était un bel objet plastique, enfin... Voilà, une belle comédie romantique sur deux solitudes qui s'ignorent, qui semblent se découvrir. Mais j'ai trouvé ça un peu long. Pourtant, c'est un film assez court, c'est assez paradoxal. J'ai trouvé que c'était un peu long, que c'était un... Oui, ça m'a laissé un peu froid. Je sais pas si c'est un sentiment qui est partagé, mais j'ai trouvé que c'était une belle histoire d'amour, qui avait un beau traitement, des péripéties. Après, il y a le regard aussi peut-être qui est le nôtre, puisque c'est un film finlandais. Donc, on a forcément un regard un petit peu aussi
différent. Oui, on pourra revenir d'ailleurs sur ça. Mais... Nathan ?
Écoutez, moi j'aimerais quand même commencer par un petit disclaimer à l'attention des auditeurs, parce que tu as employé le terme comédie romantique, et effectivement, c'est un film qui est classé comédie romantique sur Wikipédia, Allociné, tout ça. Et quand même, il ne faut pas s'y méprendre, c'est pas Coup de Foudre à Notting Hill, c'est plus Coup de Blues à Helsinki, et il faut quand même pas s'y tromper. C'est... Ouais, non, moi je rejoins plutôt Léopold sur le fait que je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus nordique, donc c'est assez froid dans la mise en scène, les couleurs, le jeu, je pense que c'est aussi. Le but, moi c'est quand même un film qui m'a plu, que j'ai trouvé très joli en fait, voilà, effectivement poétique, c'est un des mots qui m'était venu, très tendre, très doux et en même temps assez dramatique quand même, mais que j'ai trouvé remarquable dans sa mise en scène quand même.
Voilà. Lucie ?
Oui, moi justement par rapport à ce côté dramatique, je pense que c'est un truc qui m'a plu, c'est que c'est un film qui est social, on a la lutte des classes, quoi, hein, le prolétariat, etc. Et pourtant, ça tombe pas du tout dans le pathétique, le larmoyant. Il y a même de l'humour. Et, Et par rapport à la simplicité dont tu parlais, Louis, moi j'ai beaucoup aimé ça, le fait que bah, puis en plus c'est une simplicité qui est apparente parce qu'en soi leur vie elles ont rien de simple, mais je trouve que ce côté de jouer toujours sur les purs, ça permet, on va droit au but quoi. Voilà, on a des personnages qui sont en situation difficile, mais en fait on a aussi un amour qui est hyper fort du coup, du fait même qu'il est épuré et qu'en 2 heures les personnages veulent se marier quoi. Donc j'ai bien aimé.
Oui, je suis complètement d'accord aussi sur le fait que ben il y va pas, enfin il prend pas 10 000 façons d'y aller le réalisateur pour montrer que qu'ils sont amoureux finalement. Et alors personnellement la scène où où ils se revoient pour la première fois et qui est leur coup de foudre est une scène, pour le coup, moi, vraiment une très très belle scène de rencontre au cinéma de première vue. L'idée de personnes qui se rencontrent sur fond d'un karaoké de Schubert dans une boîte à Helsinki est déjà assez très beau, mais c'est vraiment, c'est-à-dire que cette scène, elle catalyse plusieurs choses qui sont assez intéressantes dans le film. Comment dire, un plan va montrer un regard et on va tout de suite comprendre. À ce titre-là, je trouve que les acteurs sont très très, enfin ils sont très bien filmés, mais ils jouent très très bien et ils disent beaucoup de choses en un peu de mouvement.
Et c'est un peu un hommage au 7e art. Enfin, il y a énormément d'hommages au 7e art. Je pense que on en reparlera, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette scène de critique. Enfin, c'est ces personnages qui sortent du cinéma après avoir vu ce film de zombies. Et qui parle, je crois, de Bresson, il y a beaucoup d'humour aussi dans ce film, c'est ce que j'ai trouvé sympathique. Enfin, moi, j'étais au Comédia pour le voir, et c'est vrai que la salle était assez contente de voir ce film.
Ouais, moi, ce qui m'a beaucoup plu, mais ça rejoint un peu ce que tu disais, Louis, c'est qu'il y a un côté très, très tchékovien, j'ai trouvé, dans ce personnage qui se démène, qui cherche à exister. Et je trouve que c'est, pour le coup, remarquablement bien retranscrit par la mise en scène. Il y a énormément de plans fixes et où les personnages rentrent comme s'ils cherchaient à exister dans le plan, comme dans leur vie finalement. Comme si, enfin, toujours décalé à l'écart, il y a la scène, alors pas la première scène de karaoké, mais plus tard dans le film, cette scène derrière la vitre d'un bar qui étouffe la musique, et alors même que la musique, il y a très peu de dialogue dans le film hein, quand même, et la musique supplée beaucoup la parole. Et de manière, je trouve, très efficace. Et cette scène-là, notamment, moi, je pense que c'est le moment que j'ai préféré dans le film. Et notamment pour le jeu, effectivement, de l'acteur principal que j'ai trouvé remarquable à ce moment-là. Et qui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais est le sosie de Bastien Bouillon. Le mec de La Nuit du 12,
oui.
L'année dernière.
Ah oui.
C'est... Ça m'a pas sorti de la tête de tout le film.
Ah ouais.
Mais bref, voilà. Et puis, il y a cette inadéquation-là des personnages. Ça passe par plein de très belles idées de mise en scène, je trouve. Il y a ce plan où... Il y a un panneau avec écrit interdiction de fumer. Le personnage rentre et évidemment, ça allume une cigarette. Il y a presque une petite rébellion, quoi, et qui apparaît à plein d'autres scènes dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça assez réussi et assez beau, ouais, dans sa simplicité.
Oui, moi, par rapport à la musique, j'ai beaucoup aimé justement le fait qu'il y ait plein de moments où là, il y a le concert, donc en fait, tout s'arrête, on écoute. Sinon, la radio, elle met la radio, on écoute avec elle. Enfin, la musique n'est pas le fond du film, et le son et l'image. Se complète en fait, et justement par rapport au fait que ça supplée la parole, moi j'ai adoré le fonctionnement de la parole. Enfin, c'est, il y a une espèce d'économie de mots pour aller droit au but, et quand par exemple on a les deux personnages principaux, donc Hansa et Olapa, il y a très peu de mots, mais tu sens que c'est bienveillant. Et dès qu'il y a un patron qui arrive, la parole est tout de suite agressive, c'est une parole de surveillance, etc. Et il y a même un état de la parole, donc quand lui il est dans le coma et qu'elle commence à lui lire le journal, on se dit bon là vraiment, on est là pour parler, vraiment juste pour parler, pour faire un fond sonore, mais...
Ouais, non, je suis d'accord, effectivement le travail sur le son est vraiment très très intéressant, et notamment pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la radio, quand elle allume c'est toujours pour des informations de la guerre en Ukraine, et il n'y a aucune réaction quasiment, sauf à un moment, elle dit juste maudite guerre, de façon quasiment assez stéréotypée, et en fait je trouve très intéressante la réflexion que mène en fait le réalisateur quand il fait ça, et cette espèce d'arrière-plan historique dans lequel on est toujours tout à fait, et puis en plus qui est en Finlande extrêmement prégnant, enfin ils ont un rapport à l'invasion russe en Ukraine qui est complètement différent d'une autre, et légitimement, mais et en même temps on a donc ce cadre-là qui revient, qui est scandé, qui est pas du tout occulté C'est-à-dire qu'il ne fait pas comme si l'amour occultait cette violence-là, cette violence sociale aussi qu'on a avec la parole du patron que tu disais, ou quand il y a un moment, il y a un personnage secondaire qui se fait appréhender par la police, il est hors champ, mais on entend très bien les scènes qui sont assez violentes, en fait, d'ailleurs. Et donc, sur cette toile de fond-là, il y a quand même cet amour qui se noue, et je trouve ça très, très juste ce que tu disais, Nathan, quand tu disais « il cherche à exister ». C'est vraiment ça, on a vraiment le côté, j'aime beaucoup cette expression, mais de vie minuscule, pour le coup, de ces deux personnages qui se rencontrent et qui savent qu'ils ont... C'est leur dernière chance de sortir de cette solitude, de cette dépression quasiment, et qui vont tout faire pour. Et en ce sens, ouais, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est un film qui est très, très humain, finalement, vraiment, et qui ramène au cœur là, sans à nouveau, effectivement, supprimer la dimension sociale.
Il y a une grande douceur aussi, je trouve, dans les images, la manière de filmer, enfin... Le traitement, même la colorimétrie, c'est assez dingue sur certaines scènes. Quelque chose de très années 60 aussi, parfois. Puis, il y a la place des animaux. Je crois que le chien va partir à la Palme d'Or.
Il a eu le grand prix du jury de la Palme d'Or aussi.
Ah, c'est même le grand prix. Voilà.
Donc, voilà.
Ouais, et puis, il y a cette scène aussi où elle l'invite à dîner, que je trouve assez touchante.
Oui, elle est très belle, cette scène. Ils ne se disent rien, encore une fois.
Toujours très simple, en effet, dans l'économie de moyens et de mots. Toujours. Et très efficace, en même temps.
Ouais, y a un jeu sur les couleurs qui est hyper intéressant. Il y a énormément d'effets miroirs avec le bleu et le rouge, que j'ai pas toujours réussi à interpréter, hein, ça pour le coup, je le dis humblement, mais qui, en tout cas, que j'ai remarqué, qui est, ne serait-ce que visuellement et plastiquement, tu parlais d'objets plastiques tout à l'heure, et sur ce plan-là, je trouve que c'est l'aspect du film que j'ai préféré, quoi. J'ai trouvé que c'était un très beau film du point de vue de la mise en scène. La fin est super jolie, je trouve.
Oui, c'est Chaplin. Ça ressemble beaucoup.
Ouais, il y a une super jolie fin. Oui, absolument. J'ai l'impression que pendant tout le film, alors là, c'est peut-être moi qui hallucine, mais j'ai l'impression que, petit à petit, les couleurs étaient plus vives, le film devenait plus chaleureux, et enfin, on voit le personnage féminin dont j'ai oublié le nom, comment elle s'appelle,
Hansa.
Sourit pour la première fois après 1h10 de film. Et ce premier sourire-là, c'est justement quand elle trouve le chien. Et je trouve que c'est vraiment le moment où le film prend un nouveau souffle et devient vraiment très touchant. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin.
Oui, je suis assez d'accord sur la plasticité du film et sur le travail sur la colorimétrie, comme vous le disiez, qui en fait a un côté très très artificiel aussi par moment, c'est-à-dire que c'est des couleurs qui sont un peu criardes mais qui sont très belles. Et sur les décors, sur le travail sur les décors, tu parlais des années 60, effectivement, Léopold, on n'a pas du tout l'impression que c'est une histoire ultra contemporaine. Il n'y a guère que la guerre qui te dit t'es en 2022. Mais autrement, je veux dire, même leurs téléphones portables, ce ne sont pas des téléphones de 2020, ou 3. Et en fait, ça rajoute au côté, effectivement, c'est un conte, en fait, vraiment, pour moi. C'est un petit objet très court, assez... les décors font vraiment décor, pour le coup, alors que tu sens que ce sont vraiment des lieux d'Helsinki. Je veux dire, c'est un vrai bar, c'est une vraie usine. Mais ils font vraiment décor et ils sont utilisés comme tels, je dirais, comme le cadre où va avoir lieu la scène. Et la progression des couleurs est très intéressante. Je n'avais pas effectivement noté ça, mais du froid du magasin où elle travaille au tout début, le froid de la grande distribution, réfrigération et tout, on arrive progressivement à ces couleurs, à cette palette de couleurs très chaude. Et le plan final est effectivement très très beau.
Ouais, et ce que tu disais sur le cadre, je trouve qu'il y a effectivement il y a un truc que j'ai trouvé hyper, encore une fois, en termes de mise en scène et de constitution du cadre, très subtil et en même temps très intelligent. C'est qu'il y a énormément de plans larges, de paysages où on essaie de montrer la nature. Et en fait, à chaque fois, il y a une machine, quoi. Enfin, il y a toujours un bout d'usine dans un coin du cadre, quoi. Et l'aliénation, en fait, est toujours là, quoi. Même quand la caméra essaie de filmer des paysages naturels. Et je trouve ça hyper, hyper intelligent, quoi. Y a effectivement plusieurs références à Chaplin aussi, je pense. J'ai eu du mal à pas penser au temps moderne dans ces moments-là, dans toutes les scènes d'usine. Je trouve ça... Il y a vraiment même des plans qui ressemblent à des tableaux de Hopper. Je trouve ça hyper, hyper beau.
Ouais, c'est vrai que... enfin deux choses par rapport enfin, à ce que tu dis. C'est vrai que c'est vraiment un film politique quand même aussi, ouais, qui n'occulte, enfin voilà, on ne dit rien du tout de toute cette violence là, et on comprend que ça rejoigne cette fameuse trilogie du prolétariat donc j'ai envie de voir maintenant. Et en même temps, sur le côté esthétique, oui, il y a vraiment des plans qui sont juste composés pour être des tableaux, par exemple. Tu parles d'Hopper, mais il y a aussi un peu de peinture danoise, je trouve. Et puis certains plans qui, à nouveau, pour revenir un peu sur ce que je disais au tout début, mais de certains plans qui vont être, qui vont tout dire en très très peu. Il y a un plan à un moment où elle a. Enfin, il a perdu son numéro et donc il revient devant le cinéma où ils se sont séparés pour la dernière fois en espérant la retrouver. Elle n'arrive pas et elle arrive en fait trois secondes après qu'il soit parti et elle se rend compte qu'il est venu juste parce qu'il y a un plan, il y a plein de cigarettes écrasées sur
elle
le sol.
Elle s'en rend compte qu'il est...
Moi je pense que oui.
Moi j'avais compris l'inverse. Hein. Qu'elle se rendait pas compte et qu'il se manquait justement.
Ah non, parce qu'elle s'arrête, elle regarde les cigarettes et après elle revient et elle a pas l'air surprise de le voir. Elle l'attendait.
Ouais. Maintenant elle sourit et tout, donc je crois que. Ouais, je crois que pour le coup. Et puis donc, enfin voilà, ça revient avec cette idée que de relation de deux êtres et que ben. C'est un film qui finalement, en dépit de tout cet arrière-plan qu'on a évoqué, est vraiment un très beau film d'espoir, je trouve. Et enfin. On en ressort alors que quand on réfléchit à tout ce qu'on a vu, il y a pas forcément beaucoup de raisons d'espérer, mais on en ressort vraiment. Enfin moi j'en suis ressorti tout content quoi, parce que voilà j'avais passé un bon moment et ça me fait une petite pause. Voilà et puis effectivement, enfin toutes les musiques sont très bien.
Et puis moi j'ai bien aimé qu'il y ait à ce point des musiques finlandaises, enfin même dans le karaoké, l'ami de du personnage principal, il dit explicitement non, moi je veux chanter une musique bien finlandaise. Et je me dis, c'est pas mal parce que du coup, enfin, on a un film finlandais qui est un peu mis à l'international et on découvre leur culture, c'est sympa aussi.
Ça se finit quand même avec les feuilles mortes en finlandais,
mais oui, mais c'est chouette aussi. Mais c'est
oui,
non, mais c'est vrai. Et effectivement, on découvre la scène où il y a un concert dans le bar et pas le karaoké est vraiment bien. Bon du coup pour les plus snobs de nos auditeurs, ça va pas arranger parce que vous allez aimer la pop finlandaise et tout en allant le voir, mais non, c'est vrai que c'est assez chouette et en même temps c'est très particulier quand même. C'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment senti le gros décalage culturel qui oppose la France et la Finlande et cette scène là parce qu'en fait les chansons sont sous-titrées et la chanson en question un peu pop et tout, ça dit, enfin ça parle du café qui a moisi dans la cafetière, du fait que même quand je serai dans le cimetière je serai entre quatre murs. Et c'est le tout sur un ton pop gay quoi, donc c'est vraiment, oui, mais il y avait vraiment ce côté là en tout cas de dépaysement à regarder ce film aussi.
Et moi pour rebondir juste sur ce que tu disais tout à l'heure quand donc par rapport aux personnages qui cherchent à exister et qui veulent sortir de la dépression, du coup à ce moment là moi le moment du coma où donc il y a un peu un remake de La Belle au bois dormant où elle l'embrasse et il se réveille, j'ai trouvé ça super parce que c'est comme, en fait c'est comme les feuilles mortes, enfin il y a, je trouve qu'il y a un peu le motif de la demi-vie qui est décliné parce que du coup on a les feuilles mortes mais on avait aussi les zombies et là on a le coma et en fait c'est toujours un état où tu sais pas bien s'ils sont vivants et là lui il décide de bon ma vie c'est dur mais depuis qu'il y a Ansa vas-y, je reviens, et l'histoire continue, et le film s'arrête pas là. Et ça, j'ai bien aimé.
Oui, c'est vrai. Ce plan final va aussi un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que ils avancent dans le couchant, enfin vers le couchant du soleil, et et lui, il est claudiquant, enfin il a des béquilles, il marche à cloche-pied et tout, mais il avance. Et c'est bien aussi, le film passe vraiment ce message-là il pose la question, est-ce qu'on se laisse face à cette société-là, est-ce qu'on se laisse aller de façon pessimiste, comme avec l'alcool, comme le font des personnages en arrière-plan et comme l'a fait le personnage masculin pendant une partie du film, ou bien est-ce qu'on décide d'avancer malgré tout. Et je suis heureux que je reviens là-dessus, mais je suis heureux que le réalisateur ait fait ce choix d'un minimum d'optimisme au moins à deux, quoi. Bah merci, merci à tous les trois. C'était donc Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki par Le Comptoir du Cinéma. C'est encore en salle partout, donc ben, pour tout un tas de raisons, allez-y si vous n'y êtes pas déjà allé, ça vous fera du bien. Et puis ça vous fera du bien, oui, tout simplement. Et avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leurs conseils. Et on commence avec Lucie.
Alors moi, je conseille d'aller écouter les épisodes Female Gaze et Male Gaze de, du podcast Les Couilles sur la Table de Victoire Tuaillon, du coup, qui a invité Iris Bray, qui est une autrice critique et enseignante sur le cinéma et qui a écrit notamment donc, Le regard féminin, une révolution à l'écran. Et en fait, c'est super parce qu'elle décrypte ce qui fait le male gaze, en quoi il est prédominant au cinéma aujourd'hui. Et participe à faire perdurer une vision complètement réifiante et réductrice des femmes. Et donc, ça, c'est intéressant pour avoir des bases sur tout ça et prendre conscience de la force des images dans la façon dont on perçoit le monde et les individus. Donc voilà, je conseille.
Merci Lucie. Nathan ?
Alors moi, je voulais parler d'un... Enfin, en fait, je voulais faire un petit clin d'œil au fait que voilà, c'est la première émission, du coup, en studio. Donc je voulais parler de critique. Et du coup, je voulais conseiller un livre qui a un nom, enfin un titre interminable, c'est « Chaque fois qu'un innocent a l'idée de monter un chef-d'œuvre, le cœur des cafards entre en transe ». Le titre est chelou. Mais c'est un recueil de critiques de Michel Audiard, qu'il a écrite dans des revues dans les années 40-50, donc au tout début de sa carrière. Et donc on retrouve son ton caustique, il y a des critiques acerbes, très drôles parfois. Il y a donc son regard qui est forcément très singulier sur plein de films de l'époque, que ce soit des films très célèbres, donc il y a l'avis notamment de Audiard sur des films comme Citizen Kane, il confie son admiration pour Fritz Lang, etc. Et à l'inverse, parfois il sacque complètement des films qu'on a plus oubliés, et c'est assez marrant à lire. Il y a certains articles où il répond aussi à des courriers de lecteurs, et tout. Enfin, c'est vraiment très drôle. Et c'est intéressant, je trouve, de voir ce regard d'un mec aussi important dans le cinéma par la suite, sur des films de son époque qu'on a parfois laissé tomber dans l'oubli, peut-être à juste titre. En tout cas, il l'explique. Et c'est mon conseil.
Super, merci beaucoup. Tu rappelles les éditions ?
Oui, alors c'est aux éditions Joseph K. C'est une édition établie par Franck Lomo. Bon, bref, en tout cas, je pense que si vous cherchez le titre, il n'y a pas, à mon avis, 45 bouquins qui s'appellent comme ça.
Oui, ça marche, merci beaucoup. Et Léopold ?
Moi, c'est un peu gratuit. Enfin, quoique, non, j'aimerais bien recommander les films d'Agnès Varda, parce que j'aime beaucoup cette cinéaste. Donc, peut-être, Cléo de 5 à 7, Visage Village. Ou un que j'aime beaucoup, c'est Jaco de Nantes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, c'est sur Jacques Demy, qui était donc son mari. C'est un film magnifique qui est à la fois sur l'enfance, sur le cinéma, où elle aussi entre plan en noir et blanc et plan en couleur, et où elle raconte donc l'enfance de son mari, de Jacques Demy, à Nantes. Et en même temps, elle montre aussi les parallèles qu'il y a avec son œuvre. Il y a des extraits de Peau d'âne, des Demoiselles de Rochefort, enfin. Voilà, c'est très beau. Et donc, on peut le revoir en ce moment sur Mubi, sur Netflix ou à la Cinémathèque française, puisqu'il y aura donc une rétrospective qui ouvre il y aura une rétrospective qui ouvre le 11 octobre 2023 et donc jusqu'au 28 janvier 2024. Je ne sais pas si c'est bien, mais ça a l'air pas mal et ça s'appelle donc Vive à Varda. Et mon deuxième conseil pour la route, c'est le passeport Kino. Donc c'est un passeport des festivals de cinéma de la métropole de Lyon. Donc il y a 16 festivals de cinéma, vous avez 16 places et c'est seulement à 11 euros pour les étudiants. Donc c'est sur www.kinopassport.com et je crois qu'il reste encore quelques jours pour commander votre passeport et le recevoir à temps pour le Festival Lumière.
Super, merci, merci Léopold. Et mon conseil à moi, c'est une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être déjà, c'est la chaîne Calmos qui est spécialisée dans le cinéma. Vous les avez peut-être croisés pour leur série de vidéos rigolo qui analyse des comédies françaises. Le concept est simple, prendre une comédie plus ou moins connue, par exemple La Cité de la Peur de Les Nuls ou Le Derrière de Valérie Le Mercier, donc qui est moins connue, choisir un thème par lequel l'aborder. Pour La Cité de la peur le basculement de la comédie française du cinéma vers la télé, et pour le derrière, la représentation de l'homosexualité dans les comédies françaises, et commenter donc cette comédie en rapport avec d'autres films, français ou non, en rapport avec des réflexions de critiques ou de philosophes des médias, le tout sans jamais le moindre snobisme. C'est une vulgarisation claire qui donne vraiment envie de voir des films, et ça fait franchement plaisir. Je vous en parle de cette chaîne parce que la dernière vidéo de Rigolo vient de sortir, et c'est suffisamment rare pour être noté maintenant, elles sont presque annuelles. Elle est consacrée aux visiteurs et elle voit pourquoi c'est un film qui ne vieillit pas. Mais Hugo, Alexandre et David Honora, qui sont donc les deux personnes qui tiennent la chaîne, ne se limitent plus qu'à ce format, et on essaie de se limiter à ce format, et expérimentent d'autres vidéos, toujours en lien avec le cinéma, donc qu'il s'agisse d'analyser AI de Spielberg avec une IA, ou encore de faire une théorie sur les aliens au cinéma, c'est toujours intéressant, on découvre des trucs complètement inattendus. Petit coup de cœur, et j'arrête de parler, pour la série Le Lien, qui parvient à relier deux films en passant par six autres. C'est toujours tiré par les cheveux, c'est toujours un petit accessoire qui renvoie à un plan. C'est pas du tout justifié, c'est vraiment gratuit, mais c'est toujours drôle. Et la dernière en date relie Superman à Shining en passant par les Portes de la Gloire avec Benoît Poulvorde. Voilà, j'espère que ça vous aura intrigué pour aller voir. Merci à tous les trois, Lucie, Nathan et Léopold, pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur transistor.fr. D'ici là, portez-vous bien, et si le cœur vous en dit de rejoindre, n'hésitez pas. Bonne soirée ou bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt.